VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 mai 2019, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, le président Faustin Artange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national suite à un massacre dans l'Ouest.
En République démocratique du Congo, des autorités politico-administratives ont été impliquées dans le massacre de Yumbi, qui avait fait des centaines de morts en décembre dernier.
Moscou va envoyer au Congo-Brazzaville des spécialistes pour l'entretien du matériel militaire russe en vertu d'un contrat signé hier.
La justice américaine poursuit Julian Assange, fondateur de Wikileaks, en vertu des lois sur l'espionnage.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux victimes d'un massacre dans l'Ouest et à une religieuse espagnole assassinée dans le pays. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Le jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai sont déclarés jours de deuil national sur toute l'étendue de la République centrafricaine en hommage aux victimes de Paoua et à la sœur Inès Nieves Sancho de Nola, a annoncé le président dans un décret. Le drapeau national sera en berne durant ces 3 jours de deuil qui ne sont pas fériés. Plus de 50 civils ont été tués ces derniers jours dans l'Ouest dans une série d'attaques attribuées au groupe armé 3R, Retour, Réclamation, Réconciliation, autour de la ville de Paoua dans le Nord-Ouest, près de la frontière avec le Tchad, selon un nouveau bilan de la MINUSCA. Il s'agit de la tuerie la plus importante depuis la signature le 6 février dernier d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Une enquête a été ouverte par les autorités locales avec le soutien de l'ONU. Des casques bleus patrouillent dans la région avec les forces armées centrafricaines. Le colonel sous-chef des opérations de la MINUSCA a évoqué un acte terroriste. Il n'y a pas de base des 3R dans les environs de la tuerie. Cela signifie qu'ils sont venus de loin et ils ont agi presque simultanément sur différents sites. Donc on peut parler d'attaques coordonnées, a-t-il précisé.
En République démocratique du Congo, des autorités politico-administratives ont été impliquées dans le massacre de Yumbi dans la province de Maïndombe, située à 300 km de Kinshasa. Des violences entre 2 communautés y avaient fait au moins 535 morts selon l'ONU en décembre dernier et 461 selon le gouvernement congolais qui a publié hier un rapport à ce sujet. Le point avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce rapport interministériel évoque l'implication des notables Tende et Nounou, les 2 communautés qui se sont affrontées entre le 16 et le 18 décembre dernier, ainsi que celle des autorités politico-administratives de la province du Maïndombe dans les violences qui ont marqué le territoire de Yumbi. Certaines autorités politico-administratives sont déjà entendues. Les enquêtes sont en cours. Je ne peux pas vous citer de nom pour le moment, a dit Marie-Ange Mouchobekwa, la ministre des Droits humains. La commission recommande le désarmement de toutes les 2 communautés et demandent que les auteurs de ces violences soient poursuivis par la justice. La ministre a révélé également que Gentili Ngobila, actuel gouverneur de Kinshasa, à l'époque à la tête du Maïndombe, a été entendu comme renseignant par la commission. En mars dernier, pour rappel, un rapport des enquêteurs de l'ONU évoquait au moins 535 morts et 111 blessés dans 4 villages du territoire de Yumbi. Ce rapport soulignait alors de possibles crimes contre l'humanité. La commission gouvernementale, elle, évoque un bilan de 461 morts, dont 98 femmes et 123 blessés. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le groupe État islamique a revendiqué 2 attaques dans l'est de la RDC, dans le territoire de Beni, où selon des sources locales, 10 de personnes ont été enlevées jeudi. Les attaques dans ce territoire sont généralement attribuées par les autorités aux forces démocratiques alliées, les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais présents dans la région depuis plus de 20 ans.
D'autre part, 4 pêcheurs et 3 miliciens Mai Mai ont été tués hier dans des affrontements impliquant des éco-gardes sur le lac Édouard, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Biango Sabuni, président des pêcheurs de la localité de Vichumbi dans le Nord Kivu, au milieu du parc de Virunga. Selon lui, il y a eu des échanges de tirs entre des miliciens qui avaient pris en otage des pêcheurs et une équipe de patrouille d'éco-gardes.
La Russie renforce sa présence en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville. Moscou va en effet envoyer dans ce pays des spécialistes pour l'entretien du matériel militaire russe en vertu d'un contrat signé hier entre les deux États. Précision de John Lyndon.
Ces spécialistes dispenseront des formations sur l'exploitation, l'entretien et la réparation du matériel d'origine russe et soviétique présent dans l'armée congolaise. C'est ce qu'a souligné le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, après la signature de ce document. Un document signé côté congolais par Charles Richard Mounjo, ministre de la Défense nationale. L'équipement militaire dont il est question ici se compose entre autres de blindés, de l'artillerie, des hélicoptères et peut encore servir longtemps, souligne le ministre de la Défense russe, qui a qualifié ce nouveau contrat de prolongement de la coopération militaire entre Moscou et Brazzaville. Des négociations sur la livraison de nouvelles armes russes au Congo sont en cours, a-t-il ajouté, indiquant que Moscou attendait tout d'abord une demande dans ce sens de la part des autorités congolaises. À noter qu'une série d'accords bilatéraux, notamment dans le nucléaire civil, ont été signés jeudi dans le cadre d'une rencontre officielle au Kremlin entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. En RCA voisine, Moscou avait également annoncé l'envoi de plus d'une centaine d'instructeurs civils chargés de former l'armée gouvernementale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La justice américaine a inculpé en vertu des lois anti-espionnage Julian Assange, fondateur de Wikileaks, pour son rôle présumé dans ce que les procureurs ont qualifié de fuite sans précédent d'informations confidentielles. Les nouvelles charges retenues contre Assange n'ont pas trait à la dissémination des emails volés du Parti démocrate pendant la présidentielle de 2016. Jean-Roger Bion.
Non, elles ont trait à la collaboration de Julian Assange avec l'ex-analyste militaire Chelsea Manning pour obtenir et publier des centaines de milliers de documents sur des rapports très sensibles du gouvernement américain sur les guerres en Afghanistan et en Irak ainsi que sur la prison de Guantanamo. Dans ces documents figurent les noms de journalistes, dissidents et autres sources humaines qui ont fourni des renseignements aux forces américaines dans ces deux pays et aux diplomates américains à travers le monde. Pour Washington, Assange savait qu'il les exposait ainsi à un grand danger et il a continué à le faire même après les avertissements du Département d'État en 2010. C'est de la folie, c'est la fin du journalisme sur les sujets de sécurité nationale et la fin du premier amendement de la Constitution américaine, a réagi Wikileaks dans un tweet. De leur côté, les défenseurs de la liberté d'expression et de la transparence gouvernementale ont exprimé des craintes à ce sujet. Même pour la justice américaine, Julian Assange n'est pas un journaliste. Suite à une demande d'extradition de Washington, il a été interpellé le mois dernier à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié en 2012.
Le ministre de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, a démenti les informations des agences Reuters et AP, selon lesquelles le Pentagone pourrait envoyer entre 5 000 et 10 000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour se défendre contre une éventuelle menace iranienne. Ce à quoi nous réfléchissons, c'est « y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité de nos forces au Moyen-Orient ? Cela pourrait comprendre l'envoi de troupes supplémentaires », a affirmé M. Shanahan à la presse avant un briefing au président Donald Trump.
Conséquence de la guerre actuelle des tarifs, l'administration Trump a annoncé une nouvelle aide d'urgence de 16 milliards de dollars destinée aux agriculteurs durement affectés par les représailles de la Chine et de l'Union européenne suite aux hausses des tarifs douaniers imposées par les États-Unis. Bagassi Koura.
Le service du secrétaire américain à l'agriculture, Sonny Perdue, explique que ce montant correspond à l'estimation des dommages causés par, je cite, « les rétorsions injustifiées sur les produits agricoles américains ». Déjà en juillet 2018, ce ministère avait débloqué une aide de 12 milliards de dollars pour les mêmes raisons. Les 16 milliards de dollars apportent donc une aide immédiate pendant que, je cite, « le président Trump s'emploie à éliminer les obstacles à l'accès au marché. Fin de citation, explique le département de l'agriculture dans un communiqué. Les dommages commerciaux causés par les représailles chinoises et les barrières douanières ont affecté de nombreux produits américains. A en outre indiqué le ministère, citant le soja, le maïs, le blé, le coton, le riz et le sorgho, les produits de l'élevage comme le lait et le porc, ainsi que de nombreux produits noix et autres cultures. Un seul exemple, les exportations de soja vers la Chine se sont effondrées l'an passé, représentant seulement 3,1 milliards de dollars contre 12,3 milliards en 2017.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Société Générale Côte d'Ivoire va débloquer une enveloppe de 350 milliards de francs CFA sur 4 ans pour les petites et moyennes entreprises. La Tribune Afrique, qui publie l'information, indique que cette convention a pour but de favoriser l'émergence d'un tissu d'entreprises performantes et porter le pays vers une croissance économique. Les fonds permettront aux PME d'agrandir leurs entreprises et d'accroître leur capacité de production. La Société Nationale Camerounaise des Hydrocarbures a entamé une opération de promotion de 9 blocs dans les bassins producteurs de Rio del Rey et Douala Kribi-Kompo, situés au sud-ouest de la péninsule de Bakassi, une zone riche en hydrocarbures et ayant fait l'objet d'un conflit entre le Cameroun et le Nigeria. Pour la Tribune Afrique, ces deux blocs ont respectivement une superficie de 7 000 et 19 000 km². Leur mise en valeur entre dans le cadre du mandat de la Société nationale de valoriser les ressources en hydrocarbures du domaine minier. Terminons avec l'inauguration d'une usine de profilés en aluminium dans la zone économique spéciale de Luanda-Bingo en Angola pour 40 millions de dollars, révèle l'agence Ecofin. Cette structure d'une superficie de 20 hectares est le fruit d'un partenariat entre le chinois CITIC Construction et l'entreprise locale Bohai Aluminium Industries. Baptisée CITIC Aluminium Angola, la nouvelle société devrait produire annuellement environ 10 000 tonnes de profilés en aluminium utilisables dans l'industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Vive tension entre les supporters du Wydad et de l'Espérance.
Oui, l'Espérance sportive de Tunis a annoncé sur Twitter que ses supporters, ayant fait le déplacement à Casablanca, sont la cible de violence. Notre bus a été la cible de jets de pierre, a affirmé l'un des supporters dans des propos relayés par Shems FM. Un autre a assuré qu'ils ont été empêchés de sortir de l'hôtel. Sur les réseaux sociaux, les supporters des deux clubs s'échangent des messages de violence. Le Wydad reçoit l'Espérance sportive de Tunis ce soir à Casablanca pour la finale aller de la Ligue des Champions avant le match retour à Tunis la semaine prochaine.
Le Gabon a son nouvel entraîneur.
Oui, il s'agit du Français Patrice Neveu, nommé pour 4 ans. Le technicien français remplace Daniel Cousin au poste de sélectionneur des Panthères. Il a déjà été sélectionneur, entre autres, en Guinée de 2004 à 2007, en République démocratique du Congo de 2008 à 2010 et en Mauritanie de 2012 à 2014. Neveu était récemment l'entraîneur du Oroya AC, club guinéen de première division, qui l'a emmené en quart de finale de la Ligue des Champions. Il a pour mission de construire une équipe nationale gabonaise compétitive et combative pour prétendre participer aux prochains rendez-vous continentaux et mondiaux. Le poste de directeur technique national est revenu à l'ancien joueur Raphaël Nzamba Nzamba. Il a également un contrat de 4 ans renouvelable.
NBA Golden State fera probablement sans Durant pour le début de la finale.
Durant n'a pas reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement, mais il continue de faire de gros progrès sur la voie de la guérison, a annoncé la franchise californienne après de nouveaux examens réalisés hier. Élu meilleur joueur des deux dernières finales, Kevin Durant a manqué les 5 derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure à un mollet droit contracté début mai. En son absence, Golden State a remporté ses 5 derniers matchs et a éliminé Houston 4 victoires à 2, puis Portland 4-0. Golden State connaîtra son adversaire de la finale à l'issue du duel de la conférence Est qui oppose Milwaukee à Toronto. Et justement, Idrissa, ces deux derniers ont joué le match numéro 5 de leur finale la nuit dernière.
Toronto n'a plus besoin que d'une victoire pour disputer la première finale NBA de son histoire après son succès 105 à 99 à Milwaukee. Les Raptors mènent 3 victoires à 2 face aux Bucks et se qualifieront pour la finale en cas de succès samedi dans leur salle. La franchise canadienne a enchaîné 3 victoires de suite dans cette finale de la conférence Est grâce aux 35 points de Kawhi Leonard, dont 13 en quatrième période.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme fait état d'une recrudescence des cas de violation des droits fondamentaux dans le pays. Les faits collectés et présentés dans le document couvrent une période de 8 mois, d'août 2018 à avril 2019, date des dernières manifestations contre le pouvoir. Yacouba Ouédraogo a joint Maître Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme.
Les investigations nous ont permis de relever des cas d'assassinat et des tentatives d'assassinat. En tout, nous avons dénombré 5 morts, dont un mineur tué par balle et 2 autres également tués par balle. Et les 2 autres, c'est par bastonnade, coup de matraque. Outre cela, il y a eu des blessés, dont plusieurs par balle. On note également des entraves à la liberté de manifestation où les autorités interdisent systématiquement les manifestations en flagrante violation de la loi. Il y a également des cas de torture dans les lieux de garde à vue. Ils ont été soumis à des procès inéquitables parce que le droit de la défense ne leur a pas été accordé. Il y a eu des exilés.
Qui sont les auteurs présumés de ces violations des droits de l'homme?
Bon, pour la plupart des cas, c'est nos forces de l'ordre et de sécurité et les militaires. Malheureusement, lorsqu'on organise des manifestations pacifiques, vous verrez dans les villes d'Égypte des militaires qui sortaient pour semer la terreur. Nous avons constaté également que le pouvoir public s'appuie sur le pouvoir judiciaire pour régler leur compte politique à ces citoyens-là qui réclament de meilleures conditions de gouvernance à travers les réformes politiques.
Est-ce que vous allez porter plainte?
Non, vous savez, nous avons fait des recommandations. Pour les cas de torture, nous avons spécialement demandé à ce qu'une enquête soit ouverte et que donc les auteurs-là soient recherchés et poursuivis conformément à la loi.
Quelles sont ces recommandations-là?
Ce qui se passe au Togo, c'est lié à une crise sociopolitique qui a trop duré. Entre-temps, la CDAO est intervenue. Malheureusement, la CDAO n'a pas su faire un travail professionnel pour que cette crise-là puisse prendre fin. Donc nous appelons à toute la communauté internationale pour qu'un travail plus sérieux soit fait.
Vous n'avez plus confiance à des structures sous-régionales comme la CDAO?
Nous, en tout cas, nous, à la Ligue des droits de l'homme, n'avons plus confiance à la CDAO parce que nous avons une institution sous-régionale qui a soumis à la classe politique une feuille de route. Cette feuille de route qui, si toute la ligne a été violée, malheureusement, la CDAO conclut qu'une élection qui a été organisée en violation de cette feuille de route conclut à la satisfaction et déclare que les élections ont été organisées à parfait respect de cette feuille de route-là qui a été violée. Nous doutons de la crédibilité de la CDAO.
Vous doutez de la CDAO, vous dites que la justice interne est instrumentalisée. Sur quoi ou sur qui comptez-vous pour cette enquête?
Nous avons la Commission nationale des droits de l'homme qui a le statut de mécanisme de la prévention de la torture dans notre pays. Nous en avons déjà discuté même avec quelques autorités ministérielles. Il va de leur intérêt qu'une enquête crédible soit menée dans ce cas-là.
Maître Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, joint à Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Burkina Faso, des agents des eaux et forêts de la région de Bobo-Dioulasso se sont dit hier opposés à la construction dans la forêt de Kwa à Bobo-Dioulasso d'un hôpital financé par la Chine. La destruction d'une partie de cette forêt classée depuis 1936 fait polémique dans le pays depuis plusieurs semaines. Pour le colonel Léonard Zouré, ancien directeur général de l'école des eaux et forêts du Burkina, la destruction de cette forêt ne se justifie pas.
Dans un pays aussi sahélien que le nôtre, Une forêt qui a 83 ans d'âge juridique, moi je pense en toute honnêteté et en toute humilité qu'il est mieux de la protéger que de la livrer à la vindicte des populations. Voilà pourquoi j'attire l'attention de l'autorité avec des preuves à l'appui pour dire que le choix n'était pas un choix judicieux, mais il était un choix hasardeux.
Le Premier ministre, devant les députés, a expliqué que les Chinois ont proposé de planter des arbres.
Si le Chinois me dit ça, j'ai dit, il fait de la comédie. S'il veut planter, arracher des arbres. Mais imaginez une forêt classée. Le calcul est simple. J'ai une forêt de 350 hectares. J'ai un autre site de 30 hectares que je peux reboiser. On me dit, je vais aller puiser 16 hectares dans une forêt classée et je vais planter 30 hectares dans un autre terrain qui n'est ni classé ni une réserve. Les gens confondent le statut et la destination. Mais le statut actuel de la forêt de quoi ? C'est une forêt publique, mais qui est classée. Maintenant, les 30 hectares que la Chine veut aller planter ou que le maire veut aller planter, mais je ne sais pas quel statut ils vont donner à cette superficie. Mais au lieu de détruire pour aller faire, pourquoi ne pas aller construire l'hôpital sur les 30 hectares? C'est aussi simple que de l'eau à boire.
Et l'autre argument du gouvernement, c'est que la partie concernée, les 16 hectares, ce n'est pas une partie assez boisée. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème.
Dans toute forêt classée, vous avez des plages. Mais c'est ça l'écologie en réalité. En dehors des systèmes climax, même quand vous allez au Gabon, vous allez trouver des trouées dans la forêt, des clairières, des bas-fonds. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire non, parce qu'il y a dégradation, il faut détruire. Non, moi je ne suis pas d'accord. La solution de la dégradation n'est pas le déclassement d'une forêt, c'est mettre les moyens pour qu'on conserve mieux, qu'on protège et qu'on enrichisse la forêt.
Quelle est l'importance de la forêt de quoi pour cette région du Burkina?
Étant un pays sahélien, quand vous regardez la configuration des forêts de la ville de Bobo-Dioulasso, la forêt de quoi se trouve à l'est, c'est-à-dire du côté des grands vents. Et elle est adossée à une autre forêt qu'on appelle la forêt de Quinima. Ces deux forêts sont sur le bassin, c'est-à-dire la cuvette des nappes phréatiques qui alimentent la guinguette où l'Olea puise l'eau pour la boisson de Bobo-Dioulasso. Ensuite, vous avez du côté ouest, vous avez la grande forêt de Dingereso, suivie de la forêt du Kou, qui bloque un peu l'effet pervers des interventions, ainsi de suite.
Léonard Zouré, ancien directeur général de l'École des eaux et forêts du Burkina, joint à Garango, dans l'est du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Cameroun veut pouvoir compter sur le développement du secteur de la transformation locale de l'huile de palme, un secteur important pour l'économie du pays. Emmanuel Jules Tap de Yaoundé.
Le gouvernement camerounais ne le cache pas. Le secteur de la transformation d'huile de palme rapporte à l'État plus de 100 milliards de francs CFA par an au travers de la commercialisation à l'extérieur. Des savons, des détergents, des huiles végétales ou encore des bougies fabriquées dans des usines appartenant aux Camerounais. Le gouvernement souhaite que ce secteur garde de telles performances économiques et veille au grain.
Pour moi, je suis satisfait que l'huile raffinée d'origine camerounaise est de bonne qualité.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation des oléagineux du Cameroun. Il a conduit récemment la mission d'évaluation des usines de transformation d'huile de palme dans les régions du littoral et de l'ouest.
Nous sommes allés voir l'état des stocks, voir si ces unités ont eu des aménagements nouveaux à l'effet de s'assurer que la demande qui induit pourra être satisfaite par l'offre. Au niveau de l'approvisionnement, nous sommes sans inquiétude. Au niveau de la qualité, nous sommes en train d'aller progressivement vers une amélioration qualitative des produits que les transformateurs sont en train d'offrir.
Selon les statistiques du ministère du Commerce, c'est au sein de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun que sont produits 95% des huiles végétales consommées localement. Mais la capacité nationale de production d'huile de palme brute reste très faible. Elle est de 370 000 tonnes, alors que la capacité de transformation est située à 1 057 000 tonnes par an.
Quand on est en situation de déficit, comme c'est le cas, il faut réguler.
Jacques Kemli, secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC.
Avant, chacun achetait en fonction de sa capacité financière. Aujourd'hui, on a dit toutes les entreprises emploient, quand bien même leur taille serait réduite. Il était donc loisible qu'on s'assure que l'huile de palme qui qui est produite sera répartie de façon équitable.
Sur le marché et dans les rayons, les produits de la transformation locale de l'huile de palme ne laissent pas indifférents les consommateurs de Yaoundé.
Quand j'entre dans un supermarché, j'aime les savons de Marseille fabriqués au Cameroun. Je suis satisfait de la qualité de la norme et du prix.
La plupart des détergents que j'aime utiliser, c'est ça, parce que ça mousse plus que d'autres.
Savon Azur, que nous utilisons souvent comme savon du Cameroun.
Reste que ce secteur, l'un des rares à être bien organisé d'après les experts, fait face à une certaine concurrence déloyale.
Le véritable problème se pose au niveau des huiles raffinées non conformes.
Docteur Emmanuel Nkoulou Ada, président du comité d'organisation du secteur des oléagineux.
Dès lors que le jeu concurrentiel est faussé, dès lors que les huiles importées ne respectent pas la réglementation et sont donc non conformes, ça devient un danger. D'abord pour l'économie camerounaise et même pour la santé des populations.
La production nationale d'huile de palme brute dans la région du sud-ouest en zone anglophone reste une préoccupation majeure. Les deux grandes unités de production de cette région payent les conséquences de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a obtenu hier un deuxième mandat à la tête de son pays. Pour les observateurs occidentaux, cette victoire électorale cimente la suprématie des nationalistes hindous. Ce scrutin a été très suivi à Maurice en raison de ses relations spéciales avec New Delhi. Jacques Aristide a joint un de ses anciens ambassadeurs aux Nations Unies, Milan Mitarban.
Bon, vous avez raison de dire que pour les commentateurs occidentaux, c'est la victoire des nationalistes hindous. Je pense que ce n'est pas nécessairement un avis qui est partagé par tout le monde. Le Premier ministre Modi a donné une nouvelle impulsion à la politique étrangère indienne. Il veut que son pays ait un rôle accru, surtout dans la région. On peut donc s'attendre à ce que cette victoire, en fait, représente une continuité, sinon une accélération de la campagne que le gouvernement Modi a lancé par rapport à la région océan Indien et aussi en Afrique.
Pour le président Donald Trump, il s'agit d'une grande victoire pour le BJP. Des grandes choses attendent le partenariat indo-américain avec le retour du Premier ministre Modi aux commandes. J'ai hâte de continuer notre travail commun conséquent, écrit-il. Les rapports entre Delhi et Washington ont-ils évolué ces dernières années?
Oui, je crois qu'il n'y a aucun doute qu'il y a eu une évolution dans les rapports entre Washington et Delhi, tant sur le plan politique qu'économique. L'évolution donc de ce rapport aura sans doute un impact sur la région parce qu'il y aura rééquilibrage des forces en présence. Ce rapprochement pourra aussi réduire les tensions qui pourraient exister au niveau de la région en raison de la concurrence entre certains États, parce que le rapprochement indo-américain donne une dimension nouvelle à la configuration qui a existé ces dernières années.
Quid des relations entre l'Inde et l'Afrique? Sur le plan économique, ce pays d'1,3 milliard d'habitants, avec Narendra Modi à la tête, pourra-t-il devenir une nouvelle Chine?
Je pense que le Premier ministre Modi a donné, encore une fois, une nouvelle impulsion aux relations entre l'Inde et l'Afrique. Lors de sa visite dans trois pays africains l'année dernière, il a énoncé les grands principes qui guideront son action en Afrique, notamment le partnership qu'il veut créer avec les pays africains. Je pense que la vision du gouvernement Modi n'est pas nécessairement en concurrence avec celle d'autres États qui sont engagés sur le continent africain. L'Inde misera beaucoup plus, à mon avis, sur son expertise dans plusieurs domaines, notamment la technologie, les communications. Donc, le partnership qui pourrait exister entre l'Inde et l'Afrique se situera probablement à d'autres niveaux que ceux qui existent actuellement entre les pays africains et d'autres pays engagés sur le continent. Je pense que de toute façon, d'un point de vue beaucoup plus global, l'émergence d'une puissance économique régionale dans la zone océan Indien et l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe en particulier va créer une dynamique nouvelle ou pourra créer une dynamique nouvelle dans cette région, parce que la montée en puissance de l'Inde sur le plan économique aura probablement un effet d'entraînement sur la région ouest de l'océan Indien.
Milan Mitterbain, ancien ambassadeur de l'île Maurice à New York. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.